Kiosque Magazine.
Bon matin à tous, ici Safia Larabi au micro sur les ondes de Canal M pour vous présenter le kiosque magazine Santé, Beauté, Maison. Ici on parle de votre corps, de votre psyché et de votre environnement. Nous sommes le mercredi 18 mars et j'espère que vous aurez plaisir en notre compagnie. Bonjour Sophie qui est présente avec nous.
Allô Safia.
Et Jean-Sébastien La Liberté à la régie.
Ah, il nous fait signe. Il est là, il est bien réveillé. Okay.
Alors, quel sujet aujourd'hui, Sophie ?
Alors, de mon côté, je vous parle en cuisine. En fait, je vous parle de la sensibilisation de nos enfants au bien manger. Et puis ensuite, nous parlerons de comment faire, en fait, de quelques témoignages sur comment faire son propre sirop d'érable, ainsi qu'un hiver parfait pour le cidre de glace. Et puis côté santé, il sera question d'un jeu vidéo pour corriger la vue et d'une nouvelle étude qui semble indiquer que les aveugles sont plus sensibles.
Très bien. Quant à moi, je vous parle aujourd'hui de toute une chronique avec plein d'astuces pour alléger sa vie. En effet, une étude récente a remarqué que les Québécoises manqueraient davantage de temps.
Pas juste les Québécoises, à mon avis, tout le monde manque de temps.
À suivre dans la chronique.
À tout de suite.
Petit guide intelligent de survie quotidienne, c'est un article issu du Châtelaine d'avril 2015 et rédigé par Marie-Hélène Proux. Donc cet article traite de comment alléger sa vie, du temps libre que les Québécoises ont si peu et il semblerait qu'en 25 ans, elles aient perdu 7 heures de loisirs. Donc quelles astuces pour y remédier ? La stupéfiante accélération du rythme de vie qui s'est enclenchée à partir du siècle dernier use un paquet de monde. Au Québec, environ une travailleuse sur trois âgée de 35 à 54 ans estime que ses journées sont assez ou extrêmement stressantes. À peu près la même proportion dit ressentir un niveau élevé de détresse psychologique. À cause des exigences familiales qui se heurtent à celles du bureau, de la liste de tâches jamais cochées en entier, de la pression de performance, du sentiment de passer à côté de sa vie. Désencombrer son quotidien n'est pas simple. Châtelaine propose ici des conseils éprouvés par les philosophes, psychologues et sociologues. Premier conseil, travailler plus fort, moins longtemps. Il faut couper les branches pour permettre à d'autres de mieux pousser, illustre le sociologue Jean-François Dortier dans un numéro spécial du magazine Sciences Humaines ayant pour thème « Peut-on ralentir le temps ?». Ainsi, il a fait plus de place aux occupations chères à son cœur en renonçant à certaines activités. Et il a repensé sa façon de travailler. Il bosse moins d'heures, mais elles sont plus productives. Pour ce faire, il a renversé la règle du 20-80, selon laquelle on ne consacre que 20% de ses efforts à accomplir le boulot essentiel et 80% à des broutilles. Les réunions en sont un bon exemple. Le message principal est souvent livré en quelques minutes. Le reste, c'est que de la parlotte. Afin d'abattre plus de besogne, le sociologue suggère de cibler la période de la journée où la concentration est au zénith, puis de protéger cette plage horaire de toute distraction. Le premier perturbateur est en soi-même. Mieux calculer son temps. Réaliser un projet prend souvent beaucoup plus de temps que ce qui est anticipé.
Oui, souvent, c'est des planifications assez optimistes. En tout cas, dans mon temps, je suis toujours très optimiste, alors je suis souvent déçue parce que ça prend beaucoup plus de temps que ce que je prévois.
Effectivement, mieux calculer son temps, c'est déjà mieux le gérer. Également, lâcher du lest. Les femmes effectuent plus de tâches domestiques que les hommes. Et peu importe leur âge, en moyenne, 3,7 heures par jour pour elles, contre 2h30 pour eux. Parfois, hélas, à cause de stéréotypes sexuels. Mais soyons honnêtes, certaines le font aussi parce qu'elles préfèrent que ce soit fait à leur façon. La manie de tout contrôler exige une énergie folle. Et vous pouvez également motiver les enfants à passer le balai dans l'allégresse, initier-les tôt aux travaux ménagers. D'abord en leur présentant la chose comme un jeu avec le temps, aider fera partie de leur routine. Renoncez également à la perfection. Viser l'excellence en tout garantit moins la réussite que l'épuisement, assure Marie-Claude Pélissier, psychologue spécialisée dans le traitement du perfectionnisme. Parce que oui, ça se traite. En réalisant d'abord ce qu'il en coûte d'être si pointilleux. Nuit écourtée, anxiété, insatisfaction perpétuelle, loisirs et vie affective hypothéquée. Tout ça, c'est cher payé. Surtout quand on compare le temps alloué au fignolage de détails, à celui investi dans des activités qui nous rendent vraiment heureux. Au moment de se fixer des objectifs, Marie-Claude Pélissier suggère d'être curieux de la façon dont on les atteindra, plutôt que de s'enfermer dans des méthodes rigides. On y mettra peut-être plus de temps, on commettra des erreurs, mais il suffit de lire les biographies de gens exceptionnels pour comprendre que le chemin vers le succès est rarement une ligne droite. Cherchez plus de souplesse au bureau. Les horaires flexibles et le travail qui font le bonheur des Européens au Nord gagneraient à être plus répandus au Québec, estime la sociologue du travail Diane Gabrielle Tremblay, professeure à TELUC. Mais les cadres ici sont plutôt du type contrôlant. Voir les gens assis à leur bureau leur donne l'impression qu'ils sont très productifs, alors qu'on peut accomplir autant chez soi, sinon plus. Elle recommande donc le télétravail. Savourer la beauté, les moments de résonance permettent de faire contrepoids à notre mode de vie frénétique, avance le philosophe allemand Hartmut Rosa. Il entend par résonance ces instants où l'on est remué au fond de l'âme par une musique, une conversation ou le spectacle de l'océan. Savourer le moment. Enfin, dernier conseil, choisir 3 priorités. On a plus de pouvoir sur son horaire qu'on ne le croit. Première étape pour reprendre le contrôle, déterminer les 3 choses qui comptent le plus pour soi, en faisant le test de la petite vieille sur sa véranda. À quoi songera-t-on en souriant au crépuscule de sa vie ? Après avoir établi cette triade, on s'y colle, ce qui implique de dire non à des activités, des relations, de l'argent, des biens matériels. L'homme vraiment libre est celui qui refuse une invitation à dîner sans donner de prétexte, dit Jules Renard.
Comment sensibiliser les enfants au bien manger ? Un texte de Marion Ancelem paru sur passeportsanté.net. Un petit instant, je change de casque parce que j'ai des problèmes techniques avec mon casque. Ok. Alors, aujourd'hui, près d'un enfant sur 5 est atteint de surcharge pondérale. Alors que ce chiffre ne cesse de progresser, il devient de plus en plus important d'initier les enfants à une alimentation saine et équilibrée. Cet équilibre alimentaire se construit dès son plus jeune âge et sur tous les repas. Voici donc quelques conseils pour sensibiliser les enfants au bien manger, selon notre nutritionniste Catherine Conan. Le rôle des parents et les règles à suivre pour bien manger. Les enfants n'acquièrent pas leurs propres habitudes alimentaires du jour au lendemain seuls. Ils ont besoin d'un exemple à suivre. C'est donc le rôle qu'endossent les parents responsables de ce qu'ils trouveront dans leurs assiettes. L'alimentation saine commence chez les parents. Ce sont les garants de la santé alimentaire de leurs enfants et ils ont pour rôle de leur donner de bonnes habitudes. Ils doivent être en mesure de leur expliquer que manger sain, c'est préserver et garantir leur santé de demain, conseille notre nutritionniste. Les habitudes alimentaires des parents ont une forte influence sur celles de leurs enfants. Ils les suivent comme un modèle dès leur plus jeune âge et surtout, ils mangent ce que les parents achètent. Tout débute donc dans le panier du supermarché, car si les parents n'adoptent pas un mode d'alimentation varié et équilibré, il y a peu de chances que les enfants s'y habituent aussi. Par ailleurs, les services de restauration scolaire doivent, en théorie, assurer la continuité de la prise de ces bonnes habitudes alimentaires et non se substituer au rôle des parents. Alors, ne pas forcer l'enfant à manger. Si l'enfant ne veut pas finir son assiette, il est inutile de le forcer sous peine d'être puni. Avant, c'était plutôt comme ça, il me semble. Maintenant, ouais. Semble-t-il, ça change. Gardez à l'esprit qu'un enfant en bonne santé mange à sa faim. On doit lui proposer, l'inciter, mais ne pas le forcer. L'obligé ne peut que conduire à un déséquilibre alimentaire. En effet, si un enfant se force à manger, il peut perdre sa capacité à évaluer son propre appétit. Si cela devient répétitif, il faut essayer de comprendre pourquoi. Peut-être que son assiette est trop remplie. Un enfant de 6 ans n'a pas les mêmes besoins nutritionnels qu'un adulte, ni le même estomac. Il faut donc le prendre en compte. Cela peut aussi être dû au fait qu'il n'aime simplement pas le goût d'un aliment. Le cuisiner de différentes façons ou l'incorporer à des plats qu'il aime peuvent être des solutions. Cependant, si l'enfant n'a pas faim, il faut quand même l'inciter à rester à table. N'oubliez pas d'aborder le sujet du gaspillage pour que votre enfant ne prenne pas l'habitude de ne jamais finir son assiette. Ne pas priver son enfant de certains aliments. Des études ont démontré qu'un enfant privé de certains aliments sera plus susceptible d'être en surpoids au cours de sa vie, tandis qu'un enfant dont les parents restreignent modérément les aliments gras consommera moins de calories que le premier. Selon Catherine Conant, nutritionniste, il ne s'agit pas de supprimer totalement les aliments gras et sucrés, mais simplement d'en limiter leur consommation. Il faut apprendre à son enfant que ce type de denrée n'est pas bon pour sa santé, mais qu'il a le droit d'en manger quand même. De façon occasionnelle, on dit. Il faut absolument conserver cette notion de plaisir occasionnel, ajoute-t-elle. La notion d'interdiction liée à ces aliments pourrait le pousser à les consommer une fois le dos tourné, ce qui n'est pas le but. Il est important d'expliquer et d'apprendre à son enfant que certains aliments sont bons pour son organisme et que d'autres ne le sont pas. Par exemple, ou du moins le sont moins. Par exemple, au moment de goûter, préférez un fruit et un produit laitier qu'un biscuit. Votre enfant prendra l'habitude de consommer ce type d'encas et sera moins tenté de se tourner vers les sucreries. Concernant les fast-foods, expliquez-lui que la fréquentation doit rester occasionnelle et qu'il s'agit uniquement d'un moment de plaisir, car ce qu'on y sert n'est pas super bon pour lui. Rendre la nourriture attractive et conviviale. La notion de plaisir est indispensable lorsqu'il s'agit de familiariser les enfants avec la nourriture saine. Pour susciter l'appétit de l'enfant, jouer avec les saveurs et les couleurs s'avère être une bonne alternative. Il verra la nourriture sous un autre angle et prendra goût à ce que vous lui préparez. Pour lui donner envie de goûter, jouez plutôt sur les couleurs, les textures et la présentation, conseille Catherine Conant. De plus, l'emmener au supermarché peut aussi le sensibiliser aux aliments que vous achetez et favoriser l'apprentissage de ce qui est bon pour sa santé. Essayez de lui faire deviner certains produits ou le laisser en choisir quelques-uns pour un repas que vous préparez ensemble. C'est vers l'âge de 8 ans, semble-t-il, que l'enfant est le plus propice à comprendre ce qu'il est bon ou pas de consommer. Donc profitez de ce moment-là pour lui apprendre à décrypter les étiquettes nutritionnelles des produits que vous achetez. Il y fera plus attention lorsqu'il fera lui-même ses courses plus tard. Faire des repas, des moments de partage. Les repas sont un moment où l'enfant se retrouve en famille ou entre amis. Il faut lui apprendre à les apprécier et à en faire des moments de partage. Cela peut passer par la préparation du repas ensemble, qui semble être une bonne occasion pour faire découvrir à son enfant les bienfaits de certains produits et comment les cuisiner. Il sera plus sensible à ce qu'il trouvera dans son assiette et à l'importance de préparer soi-même ses repas. Les repas en famille sont le moment idéal pour que les parents puissent offrir à leur enfant un modèle d'alimentation sain. Il est donc recommandé d'organiser ce genre de repas le plus souvent possible. Ce sont également de bons moments pour montrer à son enfant qui refuserait de manger certains aliments que vous les consommez et qu'il devrait donc en faire autant. Les enfants sont généralement plus disposés à goûter des aliments une fois qu'ils ont vu quelqu'un d'autre les manger et les apprécier.
Tu dis que tu fais bon voyage. Là-bas au soleil, ici dans la maison sauvage, c'est la saison des pluies. L'école. colibri. On t'envahit le salon et font leur nid dans mes cheveux. J'ai lu ta carte postale écrite en miniature, le récit de tes aventures dans la maison sauvage, ta légende grandit. Les éléphants rêvent qu'ils sont tout petits, que tu les prends contre ton cœur. Des chansons pour trouver le courage d'aller au dépanneur, ramener des bouteilles vides, faire un peu de ménage avant que ma lionne revienne de voyage.
C'était Philippe B pour La Maison Sauvage et on continue sur les astuces pour alléger sa vie à Canal M sur le kiosque magazine et c'est un article de Chantal Lapointe issu du Châtelaine d'avril 2015. Un intérieur débarrassé de superflu où chaque chose trouve sa place est tellement plus agréable à vivre. Non seulement on y gagne du temps, mais on risque d'y trouver la paix d'esprit. Voici comment désencombrer la maison. Plus de conseils de pros pour mieux s'organiser. Tout d'abord, se libérer du papier. Avec le téléphone intelligent, l'ordinateur portable, les disques durs de stockage, plus besoin d'un grand bureau avec classeur pour gérer les factures. Un coin discret au séjour convient. Si on est du genre à accumuler de la paperasse, on prévoit une plage horaire chaque semaine pour y faire un peu de ménage. Jouer la monochromie. Une seule couleur ou des teintes en camailleux limite les stimulus visuels. Un décor monochrome crée une atmosphère apaisante, explique Sarah Barrett, organisatrice professionnelle. Dans le même esprit, on aménagera une bibliothèque où règne l'harmonie et on se forcera ensuite d'y maintenir l'ordre, car les étagères qui débordent de livres et d'objets hétéroclites ajoutent à la confusion des lieux et rendent la pièce étouffante. Camoufler les fils. Génial en cette ère techno, une station de recharge où poser tous les appareils de la tribu. Fini les fils qui traînent partout. À défaut d'un modèle du commerce, on peut trafiquer un contenant en pratiquant une ouverture pour le fil de la barre multiprise. Autre astuce, diviser pour mieux ranger. Faute de cellier pour ses bouteilles, on fabrique un tiroir à vin à l'aide de séparateurs. Compartimenter, c'est la clé selon les pros de l'organisation. Pour créer des sections distinctes, on emploie de simples boîtes recyclées ou des diviseurs ajustables conçus pour les tiroirs. Adapter les accessoires. Qu'est-ce qui nous empêche de détourner un article de rangement, ou tout autre objet, de sa fonction première? Un range-chaussures peut accueillir une armée de poupées? Un coffre à outils est idéal pour recevoir les 1001 gadgets de bricolage. on peut réunir les notes, recettes et références de cuisine dans une porte-revue et regrouper les sacs cadeaux à l'aide d'un cintre à clip. Personnaliser une bibliothèque. Quelques ajustements suffisent pour convertir des modules de bibliothèque en vestiaires sympathiques et fonctionnels. Du coup, on exploite une zone habituellement perdue et on tire parti d'une superficie verticale. À retenir, libérer le sol facilite l'entretien ménager et donne une impression d'espace. S'équiper pour accrocher. Des vêtements qui sèchent ici et là, on ne veut pas que ça sèche.
Un bon exercice.
On ne veut pas de ça chez soi. On se munit donc d'une corde à linge d'appartement, d'un séchoir rétractable ou d'une tringle ajustable. Ces articles peu coûteux n'obstruent pas la circulation, surtout si on peut les installer au-dessus des laveuses et sécheuses. Huitième astuce, exploiter le moindre recoin. La salle de bain est souvent un lieu étroit, mais où l'on désire avoir une foule de bidules à portée de la main. N'y a-t-il pas une surface libre où installer un rangement de plus? Dans une petite pièce encombrée, il faut récupérer tous les centimètres carrés. Rayonnage, structure, encastré, étagère valent le coût supplémentaire. Réservez un rangement pour chacun. À chaque chose sera sa place, en tout cas on l'espère. Avec les paniers ou les tiroirs pour tous les occupants de la maisonnée, disposés dans des endroits stratégiques, il devrait y avoir moins d'objets perdus. En plus, on responsabilise sa progéniture. Autre option, un contenant pour les chapeaux, un pour les tubes de crème solaire. L'important est de trouver le système qui fonctionne pour vous. Organiser les penderies. Une garde-robe peut contenir un important volume de vêtements si on l'aménage avec des étagères, des boîtes, deux accessoires à découvrir, les cintres plats, ils prennent beaucoup moins de place que ceux en bois, et les crochets de métal pour les ceintures, les foulards. Les essentiels. Accessoires futés pour ranger vite et bien, les paniers et autres contenants que l'on trouve dans tous les styles de toutes les matières possibles. Privilégiez les boîtes rectangulaires ou carrées qui n'entraînent pas de perte d'espace, recommande la spécialiste Nathalie Bureau. Si elles sont à l'abri des regards dans les placards par exemple, optez pour les modèles transparents. Vous vous y repérerez beaucoup plus facilement.
Pas mal de boîtes.
Organisation idée pro, attaquez le désencombrement à petite dose, un tiroir à la fois. Faites le test des 6 mois. Après cette période, les jouets qui ont dormi dans un sac au sous-sol sans que les enfants les réclament peuvent être donnés sans hésitation. Idem pour les vêtements qui prennent des faux plis dans les placards. Pour éviter les achats inutiles, toujours dénombrer les objets à ranger avant d'acquérir des gadgets d'organisation. Au début, pour aider petits et grands à respecter un nouveau système, posez aux endroits clés des papillons adhésifs de type post-it avec des mots de rappel. Enfin, prévoir du temps pour instaurer les nouvelles habitudes d'organisation. Et si vous avez encore quelques questions qui peuvent vous orienter sur comment alléger votre vie dans l'organisation, cet objet vous a-t-il servi dans les derniers mois? Est-il utile? Est-il porté d'une émotion? Se sent-on coupable à l'idée de s'en défaire ou craint-on seulement de l'oublier?
Bref, côté cuisine, mélange pour chocolat chaud au caramel salé. Alors c'est ça, l'hiver n'est pas encore fini, hein, on voit qu'il résiste. Alors du coup, nous aussi on va résister. Alors un petit mélange pour chocolat chaud au caramel salé. Pour environ 2 tasses de chocolat chaud, une préparation on nous dit d'environ 20 minutes. Alors pour les ingrédients, partie un peu technique, 1/2 tasse de pépites de caramel de type score, 3/4 tasse de poudre de cacao de qualité, 1/2 tasse de lait en poudre, un quart de tasse de cassonade, une demi-cuillère à table de fleur de sel, une gousse de vanille et 5 onces de chocolat mi-sucré. Alors on nous dit, au robot culinaire, réduire les pépites de caramel en une poudre fine, ajouter la poudre de cacao, le lait en poudre, la cassonade et la fleur de sel. Racler les graines de la gousse de vanille, ça c'est la meilleure partie, et les ajouter dans le récipient du robot. Mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Ajouter le chocolat et mélanger en actionnant et en arrêtant successivement l'appareil jusqu'à ce que la préparation ait la texture d'une chapelure fine. Mettre la poudre dans un contenant hermétique. Semble-t-il, elle se conserve ainsi jusqu'à 3 mois. Et puis, pour un chocolat chaud parfait, mélangez 3 cuillères à table de poudre avec une tasse de lait chaud.
Cette semaine, c'est la Journée internationale du bonheur, le 20 mars. Décrétée comme telle par l'ONU, c'est une bonne raison de s'intéresser au Bhoutan, connu comme le pays du bonheur et photographié sous tous les angles par la Montréalaise Martine Michaud, que Châtelaine reçoit en interview. Qu'est-ce qui vous a mené au bout du monde au Bhoutan ? J'étais attirée par ce paradis de la photo profondément bouddhiste qui propose une autre façon de vivre. La quête des Bhoutanais est entre autres fondée sur le respect de l'environnement et de la culture, le développement économique durable. Le décrire en quelques mots ? Situé entre le Bangladesh, le Népal et le Tibet, ce pays a été isolé jusque dans les années 60. Les premiers touristes sont arrivés peu après et la télé en 99. Ce peuple veut entrer dans le 21e siècle sans perdre son âme ni sa culture. L'accès au système scolaire de santé y est gratuit. Que signifie donc cette journée internationale du bonheur ? Sur une échelle du bonheur, mon chiffre est assez élevé. Normal, je fais partie des privilégiés. Ce jour-là sera néanmoins l'occasion pour moi, comme pour tout le monde, j'espère, de réfléchir collectivement à la façon d'améliorer le sort des populations et de soi-même. Et vous, que ferez-vous ?
On part à la pause et on se retrouve après sur Canal M. À tout de suite. Bon retour sur les ondes de Canal M au kiosque magazine du mercredi consacré à la santé, à la cuisine et à la maison. Alors on poursuit l'émission avec cette fois-ci un article intitulé « Un jeu vidéo pour corriger la vue », un texte de Roxane Léouzon paru dans le journal Métro du 4 mars 2015. Innovation. Une équipe de chercheurs et de développeurs québécois ont conçu un premier traitement pour les adultes atteints d'amblyopie. Un problème aussi connu sous le nom d'œil paresseux. Sa particularité, il s'agit d'un jeu vidéo. L'amblyopie se produit lorsque la vision d'un œil est tellement plus faible que celle de l'autre que cet œil devient sous-utilisé. Cette situation peut entraîner du strabisme et même empêcher la vision en 3D. Chez les enfants, les thérapies existantes proposent généralement d'entraîner l'œil faible à l'aide d'exercices et en recourant à un cache-œil. Aux adultes, on dit « C'est terminé, on ne peut plus rien faire pour vous », se désole le docteur Simon Clavagnier, associé à l'unité de recherche sur la vision de l'université McGill. Dès 2007, le docteur Clavagnier et son équipe ont commencé à chercher à mettre au point un traitement qui forcerait plutôt les deux yeux à travailler ensemble. Ils ont trouvé la solution en s'associant à l'entreprise de jeux vidéo Ubisoft et à Ambliotech, une compagnie qui développe des thérapies au moyen d'interfaces électroniques. Il s'agit d'un jeu en 2D à la Mario Bros, dans lequel il faut aider des tops à creuser dans le sol pour aller chercher de l'or. Les patients portent des lunettes 3D vintage bleues et rouges, a expliqué Mathieu Ferland, producteur senior à Ubisoft Montréal. Comme les éléments visuels s'affichent de façon distinctive pour cibler l'œil droit et l'œil gauche, les joueurs sont obligés d'utiliser leurs deux yeux. Le jeu est adapté pour chaque patient, dont le cerveau est progressivement entraîné à utiliser les deux yeux de façon équitable. Le jeu a été testé auprès de 80 adultes et de 160 enfants présentant des problèmes d'amblyopie. En jouant une heure par jour pendant 6 semaines, 90% d'entre eux auraient retrouvé une vision binoculaire, c'est-à-dire une vision utilisant les deux yeux simultanément. C'est la première fois qu'Ubisoft crée un jeu thérapeutique. L'entreprise espère que son produit sera commercialisé d'ici 2 ans, le temps de le faire approuver par le milieu médical. Son utilisation devra alors être prescrite par un ophtalmologiste. Et saviez-vous que la population affectée par l'amblyopie est en fait d'un pourcentage de 3%. L'amblyopie touche environ, 3% de la population selon diverses sources, dont l'entreprise Ambliotech. Et puis, une autre étude, les aveugles plus sensibles. Les personnes aveugles de naissance sont plus sensibles à la douleur. Selon une étude menée à l'Université de Montréal auprès de 44 aveugles de naissance, ces personnes ressentent la douleur à des intensités de chaleur et de froid plus faibles que les voyants ou les aveugles ayant perdu la vue plus tard. Ce phénomène est dû à l'aptitude de notre cerveau à créer de nouveaux neurones et de nouvelles connexions lors d'un apprentissage. Cette capacité permettrait de compenser les dysfonctionnements du sens perdu en développant d'autres sens comme l'ouïe et le toucher. Un texte de Catherine Mainville-M paru dans le coup de pouce d'avril 2015.
Retour à Canal M et le Kiosque Magazine avec la chronique pour alléger sa vie issue du Châtelaine d'avril 2015. Dernière option est un article de Rosemary Charest à chacun son rythme. Rosemary est la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec et ses propos sont recueillis par Marie-Hélène Proux. Ceci n'est pas un scoop. Une multitude de femmes se sentent submergées par la kyrielle d'exigences au travail et à la maison. À cela s'ajoute aussi l'obligation d'être cordon bleu, marathonienne, branchée, cultivée, manucurée, socialement engagée. Des études récentes démontrent à quel point cette agitation peut manger le corps. Mais il y a un moyen de vivre autrement. « Je n'ai pas le temps et je suis dans le jus » figure parmi les phrases qu'on entend le plus dans une journée. Dans les enquêtes, les Québécois affirment n'avoir jamais eu si peu de loisirs. C'est encore pire pour les mères qui travaillent. Comment expliquer cet encombrement? Le phénomène n'épargne personne, mais il se manifeste chez les femmes de façon particulière, au sens où elles sont souvent en mode « réponse à la demande » plutôt que « je dirige ma vie ». C'est un vieux réflexe. Veiller aux besoins des autres est ancré en elles depuis si longtemps. Beaucoup se sentent responsables de la sphère domestique. Ce n'est pas un hasard si le discours sur la conciliation travail-famille est surtout porté par les femmes. Je pense qu'elles ressentent encore de la pression pour assumer un rôle de premier plan à la maison, en plus de composer avec les exigences de productivité au bureau. Un exemple frappant. Quand un enfant ne va pas bien, tout de suite on se demande si la mère s'en occupe comme il faut. Les filles intériorisent ces attentes-là. Je n'en connais aucune capable de vivre en paix avec l'idée qu'elle pourrait être une moins bonne maman parce qu'elle travaille. Toutes veulent faire aussi bien, sinon mieux, que leur propre mère. En même temps, elles font face à un univers de possibles, grâce aux avancées du féminisme. Elles sont hyper stimulées par un paquet de modèles intéressants. La femme qui grimpe les échelons, qui performe en sport, qui voyage partout, qui cuisine comme un chef. C'est fantastique, bien sûr. D'autant plus que le Québec s'est doté d'un système de services de garde et de congés parentaux qui facilite la vie à celle qui veut tout mener d'un front. Mais ce n'est pas parce que le buffet est vaste qu'on est obligé de goûter à tout. On n'a pas toutes les mêmes rêves ni la même énergie. On est libre de faire des choix. C'est difficile à accepter quand même, surtout quand on croise des filles qui semblent tout savoir, tout avoir. Un poste prestigieux, des enfants parfaits, un couple souverain, une maison et un chalet bien entretenus, un corps sculpté par le sport, de gros réseaux d'amis. Méfiez-vous de vos modèles. Il y a bien un peu de vie idéale. Je le sais, pour avoir vu souvent, dans ma pratique de psychologue, ce qui se cache derrière les apparences. Il faut savoir aussi que certaines s'efforcent de tout avoir parce que c'est à cette condition seulement qu'elles s'acceptent. Ce n'est pas d'elles les personnes les plus heureuses. Personnellement, j'ai fait le choix de tout avoir, mais pas en même temps. Avant de mener une carrière satisfaisante à mes yeux, j'ai longtemps regardé passe-partout à la maison avec mes petits. Je crois beaucoup au désencombrement. Mais comment évaluer que le énième projet dans lequel on s'embarque est de trop? Souvent, on a intégré l'idée qu'il est normal d'être débordé, c'est même socialement désirable. En analysant l'évolution du contenu de cartes de Noël depuis 1976, l'américaine Anne Burnett, professeure de communication à l'Université de Dakota du Nord, a découvert que les gens faisaient de plus en plus l'étalage de leur rythme de vie frénétique et de leurs multiples accomplissements, comme si ça leur conférait de l'importance. Autrement dit, être encombré flatte l'ego. Bien sûr, se faire dire « vous êtes une femme occupée » est un compliment. Ça renvoie l'image d'une personne efficace, sollicitée. Quand je donne des conférences, je demande souvent aux gens « combien d'entre vous auront le réflexe de rouvrir leur téléphone dès la seconde où ils quitteront la salle ?» On se dépêche de vérifier ses courriels, sa boîte vocale, et c'est la déception quand il n'y a rien. Répondre rapidement aux demandes des autres nous fait nous sentir utiles. C'est aussi parfois une manière de s'étourdir, de ne pas songer à son mal-être. Le hic, c'est qu'on risque de perdre le fil de ses aspirations les plus intimes. Quand on commence à se sentir insatisfait de sa vie, frustré, aigri, c'est le signe qu'on en a trop sur les épaules. On peut prévenir l'encombrement en se projetant dans l'avenir de manière lucide. Par exemple, on songe à acheter une maison en banlieue. Oui, ça donnerait plus d'espace. Mais veut-on passer plusieurs heures par jour dans le trafic? Un de mes voisins a décidé qu'il élevait sa famille au centre-ville de Montréal dans un immeuble. Non, les enfants n'ont pas de cour arrière. Mais les heures que ce père économise en déplacement, il les passe avec eux à faire du vélo dans les parcs. On en revient à la nécessité de définir ses priorités et de faire des deuils aussi. Qu'est-ce qui doit guider les choix au moment d'épurer son quotidien? La notion de plaisir. Concentrez-vous sur ce qui vous rend le plus heureuse. C'est le meilleur antidote contre l'anxiété. Et ça fait de nous des gens nettement plus agréables à côtoyer. Rien de pire que des collègues ou des parents toujours tendus parce qu'ils sont débordés. Je pense aussi qu'il faut se ménager du temps pour soi. Un temps où personne ne nous sollicite. Ce n'est pas pour rien que l'espace est si populaire. Les gens s'y mettent à l'abri des innombrables stimulations extérieures. Pour ma part, je me réserve souvent des demi-heures dans mon bureau, la porte fermée. Je métabolise ce à quoi j'ai été exposée pendant la journée. Je lis, je réfléchis, parfois j'écoute de la musique, mais le plus souvent je savoure le silence. Les enfants aussi ont besoin de moments pour ne rien faire. C'est dans ces instants de liberté qu'on découvre le sens qu'on veut donner à sa vie.
Avant le printemps,
Tout le monde en même temps, un titre de Louis-Jean Cormier. Et si tout le monde en même temps faisait son propre sirop d'érable? Question, qu'est-ce que ça donnerait? Je ne sais pas. Hein,
j'approuve.
Alors, faire son propre sirop d'érable, un texte de Émilie Bilodeau, paru dans le journal La Presse le 10 mars 2015. Fabriquer son sirop, ça prend beaucoup d'eau d'érable et beaucoup de temps. Pourtant, plusieurs familles québécoises produisent leur propre élixir sucré, par pur plaisir, pas pour le vendre. Rencontre. David Baudry et Frédéric Côté se promenaient à Eastman dans l'espoir de trouver un terrain parfait pour construire leur maison. Quand le promoteur immobilier les a informés que les arbres sur la terre où ils se trouvaient étaient des érables à sucre, le charme a aussitôt opéré. Conquis, le couple a fait l'acquisition du terrain et s'est rapidement intéressé à l'acériculture en lisant tout ce qui s'écrivait sur le sujet sur Internet. Depuis 5 ans, lorsque le mercure monte au-dessus de 0 degré au printemps, le couple entaille donc une vingtaine d'érables, pose des chalumeaux et suspend des chaudières pour recueillir la sève. Une constatation s'impose depuis sa première expérience. Fabriquer du sirop d'érable prend définitivement beaucoup de sève et beaucoup de temps. Après leur journée de boulot dans une école primaire pour David et dans un hôpital pour Frédéric, l'enseignant et l'infirmier entament la tournée quotidienne de leurs arbres, car l'eau d'érable est une denrée qui périt vite. Chaque soir, ils vident les chaudières dans de grands contenants de plastique qu'ils enterrent sous la neige. Le week-end venu, ils transforment l'eau en réduit. Ce réduit possède la même texture et la même couleur que le sirop, mais il demandera une transformation supplémentaire. Ils répètent ce procédé toutes les fins de semaine jusqu'à ce que les érables cessent de couler. C'est à ce moment qu'ils réunissent tous les réduits qu'ils avaient congelés pour les transformer en sirop d'érable. Enfin ! Les apprentissages de David et Frédéric ont été marqués cependant par quelques gaffes qui les font rire aujourd'hui. La première année, le couple a fait bouillir l'eau d'érable sur le poêle de la cuisine. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les vapeurs d'érable sont extrêmement collantes. Pour éviter de nettoyer leur cuisine de fond en comble, ils utilisent désormais un brûleur au propane sur leur balcon extérieur. Excusez-moi. David et Frédéric ont également changé leur façon de stériliser leurs filtres. La première année, je les avais passés à la laveuse avec un tout petit peu d'eau de Javel, vraiment juste un petit peu, et bien le sirop goûtait l'eau de Javel.
Okay.
Sympa. Deux arbres suffisent. Benoît Paquin, lui, n'a pas eu besoin de bouquiner pour apprendre les rudiments de la sériculture. Il a tout appris de ses parents qui entaillaient les érables de leur terre de Mont-Laurier quand il était petit. Au lendemain de l'achat de son terrain en 1966 dans un quartier résidentiel de Laval, il a planté deux érables dans le but précis de confectionner son propre sirop. Le charpentier menuisier a même aménagé un espace dans la maison qu'il a construite pour faire bouillir son eau d'érable. Aujourd'hui âgé de 83 ans, il a développé un fin palais de dégustateur de sirop. Celui qu'il préfère est timbré et possède un petit goût végétal. J'ai planté deux variétés d'érable. Celui en avant, c'est un érable plane et il est plus sucré que celui en arrière, un érable franc. Je mélange la sève des deux arbres. C'est un peu comme le vin quand on mélange les cépages, raconte celui qui confectionnait son sirop bien avant la vague du fait maison. Une balade dans le quartier de M. Paquin a d'ailleurs quelque chose d'un peu surréel pour une banlieue urbaine, car il n'est pas le seul à suspendre des chaudières en aluminium à ses arbres. Son voisin, par exemple, se fait une réserve de sève dans son congélateur pour cuire son gruau dans l'eau d'érable tout au long de l'année. Chic, vous dites ? Une histoire de famille. À l'opposé de ces deux petites productions d'Isman et de Laval, les Rois Chevaliers entaillent pas moins de 750 érables par pur plaisir. Les membres de la grande famille se relaient pendant toute la saison des sucres pour récolter le plus d'eau d'érable possible. Malgré l'ampleur de la tâche, tout se fait de manière artisanale, raconte François-Pierre Chevalier. Les hommes et les enfants récoltent l'eau d'érable en raquette, les femmes mettent le sirop en conserve avec un sertisseur ancien et grand-papa entretient la flamme du four à bois à la parfaite température. Seule innovation, un véhicule tout-terrain a remplacé les chevaux pour transporter les barils d'eau d'érable. Le but, c'est de conserver cette tradition purement de chez nous. Lorsqu'on vient faire du sirop, ça rassemble toute la famille et ça nous permet de passer le flambeau aux générations suivantes. Le sirop d'érable, c'est une richesse que l'on doit perpétuer en tant que Québécois, déclare M. Chevalier. Tous ensemble, les Rois Chevaliers mettent beaucoup de temps et d'amour à produire un sirop d'érable de qualité. Chaque fois que je donne une canne à quelqu'un, je lui dis qu'un produit comme ça, ça n'a pas de prix, souligne M. Chevalier. Hiver parfait pour le cidre de glace. Un texte de José Hamelin paru dans le Journal de Montréal le 5 mars dernier. Mont-Saint-Hilaire. Pendant que les Québécois pestaient contre le froid cet hiver, les producteurs de cidre de glace, eux, se réjouissaient que cet hiver leur apporte enfin une météo propice à la fabrication de leurs délicats produits. Cet hiver, il y a eu froid constant, sans le moindre redoux, explique le propriétaire de la cidrerie Michel Jaudouin. C'est bon autant pour les pommes cueillies dans les arbres en décembre, qu'on appelle la cryo-extraction, que pour le concentré refroidi à l'extérieur, la cryo-concentration. Selon le producteur de cidre, il faut également de 2 à 3 semaines de froid continu pour que le cidre développe ses arômes. Avec plusieurs mois de froid sans redoux cette année, on parle vraiment de conditions optimales. Sa cidrerie, située à Rougemont, produit environ 5000 bouteilles de cidre de glace par an. La Montérégie est un véritable château fort de la production du cidre de glace. La moitié de la cinquantaine de cidreries québécoises sont situées dans cette région. Des cidres plus sucrés. Située au pied du Mont-Saint-Hilaire, la cidrerie Criot se réjouit aussi de l'hiver très froid que les Québécois ont vécu en janvier et février. Ce qu'il faut éviter à tout prix, ce sont les hivers en dents de scie, comme ceux des dernières années, indique son propriétaire Hugo Poliquin, qui produit environ 8000 bouteilles par an. Comme nous avons eu un froid soutenu sur une longue période, on s'attend à ce que le sirop de la pomme soit plus concentré et les cidres plus riches en sucre, a-t-il dit. Au Québec, 90% de la production se fait à partir de jus congelés à l'extérieur et 10% avec des pommes gelées dans l'arbre. On ne permet ni la congélation artificielle, ni l'ajout de sucre. un alcool mature. Pour Hugo Poliquin, le cidre de glace est le seul alcool québécois à avoir atteint sa maturité. C'est un produit qui est exportable et qu'on peut aller défendre sans complexe sur la scène internationale. Après le sirop d'érable, il croit que le cidre de glace sera le produit identitaire qu'on offrira dorénavant en cadeau à l'étranger ou à des amis en visite au Québec. La preuve, même Barack Obama en a bu lors de sa première visite officielle au Canada, qui était en février 2009 si je ne me trompe pas. Quelques chiffres au sujet du cidre de glace. Il faut, semble-t-il, de 4 à 5 fois plus de pommes pour faire du cidre de glace que pour faire du cidre normal. Excusez-moi. On compte environ 50 producteurs de cidre de glace au Québec. 400 000 bouteilles ont été vendues l'an dernier à la SAQ. On l'exporte dans 50 pays et des ventes de 5,7 millions de dollars à la SAQ ont été faites en 2013.
L'haltère anti-bédon, ça existe. La meilleure arme contre le gras abdominal serait la musculation. Au cours d'une vaste étude américaine, des scientifiques ont analysé les effets sur le tour de taille de différents changements dans les habitudes d'exercice chez 10 500 hommes pendant une période de 12 ans. Résultat ? Les participants qui ont allongé de 20 minutes leur séance de musculation quotidienne ont moins élargi de la taille que ceux qui ont ajouté ces 20 minutes à leur entraînement aérobique. Et sans surprise, on a noté que l'adoption de comportements plus sédentaires faisait davantage grossir le bidon.
Tout nu sur la plage. Selon une étude d'Expedia.ca effectuée en 2013, 28% des Québécois sondés disent devenir fringants lorsqu'ils sont en vacances à la plage. Et 22% affirment oser se dénuder complètement sur une plage nudiste, soit le double que les réponses enregistrées dans le reste du Canada, qui représente 11%. Les maillots révélateurs, comme le bon vieux Speedo, seraient même portés par 17% des répondants.
Vivre avec simplicité, c'est trier. Pourquoi avoir 163 contenants de plastique et 122 couvercles ? Préparer des repas à des nouveaux parents. Offrir en cadeau une sortie culturelle à un enfant, ça suffit les montagnes de jouets. Réutiliser un meuble, le repeindre, changer les poignées de tiroir. Soyez créatif. Voir le quotidien autrement, inverser les chambres. Vivre des expériences inédites, sentir la chaleur des rayons du soleil sur sa peau, s'oxygéner le corps et l'esprit, explorer un coin de pays qu'on ne connaît pas, faire le ménage du printemps avant le temps, laisser entrer la lumière et une bouffée d'air frais dans la maison.
Cinq façons naturelles de soulager les douleurs articulaires. Au Québec, 11% des gens de 15 ans et plus ont reçu un diagnostic d'arthrite. Douleurs, raideurs, inflammations, souffrances, parfois difficiles à contrôler. Toutefois, de bonnes habitudes de vie peuvent aider en atténuer les symptômes. Les recommandations de Stéphanie Bureau, naturopathe. Premièrement, maintenir un poids santé. Grimper les escaliers, racler des feuilles, porter les sacs d'épicerie, etc. Nos articulations sont constamment sollicitées et chaque livre en trop impose une surcharge aux articulations qui doivent supporter notre poids. Ensuite, s'entraîner, on entretient nos muscles pour bien soutenir nos articulations, on s'étire aussi régulièrement afin de diminuer les raideurs et maintenir la flexibilité de nos muscles et tendons. Ensuite, consommer moins de sucre et de viande rouge. Consommer en grande quantité le sucre et les viandes rouges augmentent en effet les risques d'inflammation, en plus de potentiellement nous faire gagner des kilos. choisir les bons aliments, du gingembre, du curcuma, du saumon sauvage, les graines de lin, les légumes verts, les baies sauvages et le chocolat noir, quand même, aident à préserver les os et les articulations grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires. Et pour finir, bien dormir. Un sommeil réparateur permet de bien récupérer et de soulager les maux. Et voici déjà la fin de notre émission. Donc, nous aimerions vous remercier en fait pour nous avoir écoutés. Merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et ses choix musicaux. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre au 1-800-361-0635 poste 220 ou de nous écrire sur canalm@vivezvoix.com. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
Au revoir.